Radio Kapi.
Oh, Kapi. Le journal Blaise Chindel.
Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à cette grande édition du journal parlé, dont voici les titres. La Commission européenne ajoute une aide humanitaire supplémentaire de 9 millions d'euros en faveur de la RDC afin de répondre aux besoins humanitaires tragiques du pays. Promesse de Kaja Kallas, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité à la conférence de Paris. Judith Suminwa participe ce lundi en Grande-Bretagne au sommet CNN Global Perspective on Africa. La première ministre interviendra lors d'une session intitulée Mining, Peace and Power, consacrée aux défis et opportunités de la RDC riche en ressources naturelles et abritant la plus vaste forêt tropicale d'Afrique. À Walungu au sud Kivu, la recrudescence des affrontements met la population en danger avec des décès et un manque de prise en charge sanitaire. Pour en parler, nous recevons Béatrice Navano qui reviendra sur cette crise socio-humanitaire. Encore une fois, bon après-midi à tous. La Commission européenne fournit une aide humanitaire supplémentaire de 9 millions d'euros en faveur de la République démocratique du Congo afin de répondre aux besoins humanitaires tragiques du pays. Dans un communiqué, l'UE précise que cet engagement intervient alors que Kaja Kallas, haute représentante de l'Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, assistait à la conférence de Paris en faveur de la paix et de la prospérité dans la région des Grands Lacs. D'autres détails avec vous, Alain Irung.
Selon ce communiqué, les conflits dans l'est de la RDC ont considérablement aggravé la crise humanitaire dans la région. Les déplacements massifs ont entraîné une montée en flèche des besoins en fournitures essentielles telles que la nourriture, l'eau et les abris, mais aussi des risques accrus pour la protection des groupes déjà vulnérables tels que les femmes et les enfants. Le financement de 9 millions d'euros vient s'ajouter aux 120 millions d'euros d'aide humanitaire déjà fournie à la région des Grands Lacs en 2025, l'accent étant mis sur l'est de la RDC. Adja Labib, commissaire chargé de la préparation, de la gestion des crises et de l'égalité, a déclaré « La crise humanitaire en RDC est l'une des plus graves de notre époque. L'ampleur des souffrances humanitaires est énorme et mérite toute notre attention. Grâce à ce nouveau financement humanitaire, l'Union européenne vise à venir en aide aux communautés les plus vulnérables en RDC. L'Union européenne reste déterminée non seulement en tant qu'acteur humanitaire, mais aussi en tant que défenseur d'une paix durable à long terme pour la population du Congo. »
En Ituri, pendant ces temps, 4 personnes sont mortes lors d'une fusillade entre des militaires ougandais des UPDF basés à l'aérodrome des Allées de Mahagi. C'est environ 200 km au nord de Bunia. Selon des sources sécuritaires, c'est à la suite d'une dispute samedi 1er novembre autour d'une concubine qu'un militaire ougandais en état d'ivresse a tiré sur son chef et sa garde ainsi que sur une autre femme congolaise. Une situation qui a suscité la colère des jeunes de Mahagi. Le point avec Martial Kizabiamongo.
Cette fusillade a eu lieu précisément dans un débit de boissons local frélaté à proximité de l'aéroport des Allées à Mahagi. Selon des sources sécuritaires, un sergent de l'armée ougandaise, UPDF, en état de débriété très avancé, accusait un major de son contingent d'entretenir une relation amoureuse avec sa concubine. C'est alors qu'une dispute a éclaté entre les deux. Le sergent a ouvert le feu sur son supérieur et son garde de corps. Les deux sont morts sur les champs. Les meurtriers a ensuite tiré sur la femme ougandaise et objet de la dispute. La vendeuse d'alcool des nationalités congolaises est grièvement blessée par balle perdue à succombé dimanche matin à l'hôpital de Mahagi. L'auteur de cette fusillade a été arrêté par ses compagnons d'armes et acheminé avec le cadavre des 3 Ougandais à Nebi, en Ouganda. Un acte que la société civile locale et des jeunes de Mahagi qualifient de bavure de trop de militaires ougandais sur le sol congolais. Ils exigent des dédommagements pour la famille de la femme décédée. Bounia, Martial Kizapiamongo, Radio Okapi.
Et puis au Nord Kivu, les taximens moto opérant sur les tronçons routiers Masisi Walikale plaident pour l'ouverture d'une forme de guichet unique pour le contrôle et la perception des taxes et redevances routières. Ils ont fait cette demande lors d'une rencontre la semaine dernière avec les autorités coutumières locales. Ces motards contestent, entre autres, une multiplicité de barrières parfois illégales, accroissant les tracasseries routières entre Walikale Centre et les limites avec le territoire de Masisi. Des détails avec vous, Élisée Chikota Chivueta.
Entre les villages de Miba et Kibwa, moins de 50 km dans le groupement de Luberike, les taximens moto disent compter plus de 6 barrières, les unes tenues par les combattants des groupes armés. Des tracasseries à ces barrières inquiètent aussi bien les transporteurs que leurs clients. L'un des motards plaide ainsi pour une mise en ordre dans cette zone, suivant ses propos.
Lorsque nous avons été invités par le chef du groupement IANA, nous avons demandé qu'on nous ouvre un guichet unique. Du fait que c'est inconcevable que dans le seul tronçon Miba-Kibwa, l'on compte 6 barrières où un montant global de 65 000 francs congolais est déboursé par chaque moto transportant un colis. Pour nous, c'est devenu une tracasserie. Et cela sans rajouter d'autres barrières au-delà de Kibwa. Un commerçant quitte Walikale avec ses 3 à 4 millions de francs congolais, il est checké à chacune de ces barrières. L'implicité de ces checkpoints devient source d'insécurité pour le voyageur.
Certaines sources coutumières dans la zone affirment que les rapports sur cette situation ont déjà été adressés aux autorités civiles et militaires de la province du Nord Kivu pour des dispositions idoines. Les réponses sont toujours attendues, disent-elles. Nous n'avons pas reçu, malgré nos efforts, à joindre l'administrateur du territoire de Walikale à ce sujet.
Nous le disions en titre, la première ministre de la République démocratique du Congo, Judith Suminwa-Tuluka, participe ce lundi à Londres, en Grande-Bretagne, au sommet CNN Global Perspective en Africa. Selon les services de la primature, elle portera le message de la RDC sur la paix, les minéraux stratégiques et les potentiels du pays. Plus de détails avec vous, Alain Irung-Mouchinj.
Judith Suminwa interviendra lors d'une session intitulée « Mining, Peace and Power ». Consacré aux défis et aux opportunités de la RDC, riche en ressources naturelles et abritant la plus vaste forêt tropicale d'Afrique. Le Royaume-Uni représente un partenaire important pour Kinshasa dans ces domaines cruciaux. En tant que siège d'institutions financières internationales et des grandes entreprises, le pays est un acteur clé dans les discussions sur les investissements responsables dans le secteur minier congolais, riche en minerais critiques essentiels à la transition énergétique mondiale. De plus, le Royaume-Uni, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies, joue un rôle diplomatique influent dans les efforts de stabilisation et de consolidation de la paix dans la région des Grands Lacs.
Initialement prévue pour ce lundi 3 novembre sur toute l'étendue de la ville de Kinshasa, l'opération de vérification des documents du contrôle technique est reportée au lundi 17 novembre. C'est le ministre provincial du transport qui l'a annoncé hier dimanche sur la chaîne nationale. Jésus-Noël Cheke précise que le contrôle technique est important pour éviter notamment des accidents. Suivez.
Sur instruction de son excellence monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, le gouvernement provincial à travers les ministères ayant en charge les transports et la mobilité urbaine dans la ville de Kinshasa annonce la prolongation jusqu'au 17 novembre prochain, lundi 17, la période pour déployer les contrôles de certificats de contrôle technique. Donc, initialement prévu pour les 3, vu l'engouement également dans tous les différents centres de contrôle technique, vu également les civismes démontrés par la population quinoise, le gouverneur a instruit l'exécutif provincial de pouvoir accorder une période de prolongation de 14 jours afin de permettre à tous les Quinois qui n'ont pas eu la possibilité de pouvoir aligner leur véhicule au regard aussi bien de l'engouement et de toutes les files qu'on a constatées dans les différents centres, de pouvoir les faire aisément, mais cette prolongation n'est pas un décrochage.
Le caucus des députés nationaux de la Tchopo dénonce l'ingérence du pouvoir central dans la gestion des institutions provinciales, en l'occurrence dans la crise qui secoue la province de la Tchopo. Dans une déclaration faite ce week-end à Kinshasa, ces élus fustigent ce qu'ils appellent tentative par le vice-premier ministre et ministre de l'Intérieur et Sécurité d'imposer la réhabilitation du gouverneur déchu de cette province par l'Assemblée provinciale. Les députés de la Tchopo appellent au respect de la Constitution et des lois de la République. On écoute Élie Kolongo, rapporteur du caucus des députés de la Tchopo, dans cet extrait proposé par Grace Amzati.
Les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent la stabilité des institutions provinciales, les respects des lois du pays et les attributions de chaque institution provinciale. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo exigent du vice-premier ministre de l'Intérieur de respecter la loi sur la libre administration des provinces et d'agir dans les limites de ses attributions. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo encouragent M. le gouverneur de Chu à poursuivre la procédure judiciaire telle qu'entamée à la Cour constitutionnelle. Les caucus des députés nationaux de la Tchopo sollicitent du président de la République, chef de l'État, garant des bons fonctionnements des institutions de la République, d'avoir un œil regardant sur la situation politique dans la province de la Tchopo. Quant au vice-premier ministre de l'Intérieur, les caucus des députés nationaux de la Tchopo se réservent les droits d'initier des actions conformément à la Constitution.
Nous n'avons pas réussi à avoir la réaction du ministère de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières à ce sujet. Les députés nationaux honoraires de la troisième législature 2018-2023 ainsi que ceux réélus accusent les ministres des Finances de bloquer la programmation de leur ordre de paiement qu'il a pourtant signé depuis plus de 3 semaines. Dans un communiqué publié le week-end, ils affirment que cet ordre de paiement a obtenu l'aval de toutes les institutions concernées, dont l'Assemblée nationale. Malgré nos multiples plaidoiries avec ses collaborateurs, y compris la vice-ministre des Finances, les interventions de ses collègues ministres, ainsi que d'autres canaux non officiels, nous constatons que le ministre des Finances manifeste sa mauvaise foi pour retarder volontairement la programmation et les paiements de notre ordre de paiement, disent-ils. On écoute un extrait de leur déclaration lue ici par leur porte-parole Ntumba Tshiabola Bintou au micro d'Alain Irung.
Étant donné que toute la documentation sur la reddition des comptes de l'exercice 2024, qui était notre dernier budget traité par nous, par notre législature, est déjà distribuée et que bientôt sera programmée une plénière quant à ce, après le vote et l'installation du nouveau président et rapporteur adjoint de l'Assemblée nationale la semaine prochaine. Nous demandons à tous les députés de la troisième législature de rester mobilisés afin d'obliger le ministre des Finances, malgré sa mauvaise foi, à programmer notre OPI. Soyons très mobilisés et attentifs. Nous avons l'obligation de nous prendre en charge pour recouvrer notre droit après avoir rendu de loyaux services à la nation, dont le budget de l'exercice 2024 qui sera programmé pour la reddition des comptes. Il est impérieux de noter que cela n'est pas une faveur, ni une quelconque déstabilisation des institutions de la République.
Tous nos efforts pour avoir la réaction du ministère des Finances sont restés vains. Après les élus provinciaux, des notables issus des 366 groupements de Congo central tirent à leur tour la sonnette d'alarme concernant la gestion peu orthodoxe de leur province. Le président de leur structure, Joseph Mabanga, a lancé cette alerte ce lundi lors d'un point de presse tenu à Kinshasa. Il déplore notamment la mise en place de structures parallèles pour la gestion des péages provinciaux. Pour limiter ces dérives, Joseph Mabanga appelle l'équipe de contrôle de l'inspection générale des finances IGF, actuellement en mission dans sa province, à accomplir son travail avec rigueur. Ces propos ont été recueillis par Blaise Ndongala Mayanda.
La BGF se traduit par la mise sur pied de structures parallèles de gestion des péages provinciaux. La création d'une agence de gestion des péages et des pesages du Congo central. Il en est de même de la redevance pétrolière. Le mépris des instructions émanant des autorités nationale. Ici, allusion faite au ministre national des Finances et celui de l'Intérieur. Le gouverneur foule au pied les instructions de sa tutelle, la création des structures confiées à des proches. Nous lançons un appel pathétique à l'équipe de contrôle de l'IGF de faire du bon travail conformément aux instructions qui leur a été données par les lettres du chef de l'État.
Radio Kapi a tenté en vain de joindre le cabinet du gouverneur mis en cause afin d'obtenir sa version des faits.
Actualité internationale.
Une nouvelle phase des manifestations post-électorales démarre ce lundi 3 novembre 2025 dans les villes du Cameroun. Issa Chiroma Bakari, candidat déclaré deuxième de l'élection présidentielle et qui a rejeté ses résultats, appelle à des villes mortes pour 3 jours. Ce qui veut dire, en théorie, que tout doit être fermé. Les administrations, les commerces, les écoles, les transports à l'arrêt. À Douala, capitale économique du pays et épicentre des manifestations de la semaine dernière avec Garoua dans le nord, la situation sera une nouvelle fois scrutée pour évaluer notamment les niveaux d'adhésion à ces mots d'ordre.
L'invité.
La situation socio-humanitaire dans les territoires de Walungu ainsi que dans plusieurs autres zones du Sud Kivu nécessite une attention particulière de la part des acteurs humanitaires. Les combats à répétition dans cette région exposent la population à la pauvreté et à diverses maladies avec des cas de décès enregistrés faute de prise en charge adéquate. Pour en parler, nous recevons Béatrice Navano, députée provinciale de Walungu. Elle s'entretient avec Ronelli Tibonera.
Madame Béatrice Navano, bonjour.
Oui, bonjour, monsieur le journaliste.
Vous êtes élue du territoire de Walungu. Qu'est-ce que nos auditeurs peuvent retenir de la situation sur le terrain après presque plusieurs semaines de combats dans cette zone où vous avez été élue?
Étant élue du territoire de Walungu, nos auditeurs doivent savoir que la population de Walungu vit dans des situations inhumaines et précaires suite à cette occupation illégale et inconstitutionnelle du territoire de Walungu. J'appelle la communauté nationale et internationale de s'impliquer dans cette situation pour le rétablissement de la paix, l'apaisement des conditions de vie, l'amélioration de la situation socio-économique de la population dont je suis élu. Mais toutefois, je compatis avec eux et les invite à garder l'espoir en Dieu qui sonde le cœur de ses enfants, tout en les invitant de ne pas coaliser avec les agresseurs de la paix.
Nous savons que des milliers de personnes ont été obligées de quitter leur village pour se mettre à l'abri dans des zones comme Ninja et ailleurs. Pouvez-vous nous dire dans quelles conditions ces personnes ayant fui les combats entre les rebelles du M23 et les Wazalendo se retrouvent actuellement?
À ce sujet, nul n'est mieux que chez soi. Les groupements qui reçoivent ces déplacés internes sans assistance sont plongés dans une misère absolue. Des cas de maladies et de décès sont signalés suite à une non-assistance humanitaire, mais aussi l'implication permanente de notre gouvernement central. Nous demandons encore une fois aux organisations alimentaires de vouloir songer à cette pauvre population victime de la guerre, une population longtemps abandonnée, dont je cite le territoire de Walungu, Kabare, Kalehe, Ijwi et dans la ville de Bukavu.
De nombreux défenseurs des droits humains, y compris des acteurs politiques, dénoncent cette politique de recrutement des jeunes Congolais par la rébellion du M23. Est-ce que vous également vous confirmez ces informations? Et en tant qu'élu de cette partie de la République démocratique du Congo, quelles sont vos craintes par rapport à ces stratégies mises en avant?
Ce matin du 30 octobre, dans le quartier Mpanzi, il y avait bouclage à la recherche des soins des Wazalendo, comme s'ils ne savaient pas là où ils restent. C'est ainsi qu'ils passent quartier par quartier pour ramasser des jeunes qu'ils enrôlent dans l'armée avec force. Monsieur le journaliste, le recrutement dans cette partie de la RDC sous occupation des rebelles du M23 n'est pas volontaire, mais plutôt contraignant, ce qui laisse plusieurs familles sans avenir, voire plusieurs veuves, mais aussi une main-d'œuvre insuffisante pour l'avenir de notre pays. Selon l'adage qui dit, la jeunesse c'est l'avenir d'un pays. Si on nous arrache notre jeunesse aujourd'hui par force pour un mouvement rebelle. Quel sera l'avenir de notre pays demain?
Alors que les discussions de Doha et de Washington semblent être au point mort, je ne sais pas quel est, selon vous, la stratégie à mettre en avant pour trouver d'ici à cette crise qui secoue la partie est de la RDC.
Les pourparlers ne serviront à rien s'il n'y a pas d'observateurs sur terrain, car ils aiment se victimiser pour tromper l'opinion internationale. La stratégie primordiale et efficace est de cesser le feu, mais aussi un dialogue avec des conditions précises qui prônent avant tout le rétablissement de la paix et l'amélioration des conditions de vie humaine et le retrait immédiat des troupes étrangères sur le sol congolais.
Béatrice Nambano, nous vous remercions.
Merci beaucoup.
C'était notre invité Béatrice Nambano qui s'entretenait avec Ronéline Tibonera et c'est ce qui met fin à cette grande édition du journal Parlé, coordonnée par Élisée Chikotachi-Vueta, supervisée par Alain Irungu-Mushinji et mise en onde par Jean-Claude Nsiala Mwanama Kengontswalu. Bonne suite des programmes sur la radio de la paix.